La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Les forces de l'ordre ont pour mission de protéger les citoyens. Elles peuvent avoir recours à la force, à condition toutefois que celle-ci soit strictement nécessaire et proportionnée, et que la législation soit respectée. Tout l'enjeu réside dans la difficulté d'y situer la frontière entre la force légitime et les violences policières illégales. La force ne peut être utilisée que si elle est strictement nécessaire et proportionnée. Elle doit être employée en dernier recours et être rendue nécessaire par la situation. La hausse spectaculaire des affaires judiciaires visant des personnes de l'autorité publique est passée de 700 à 1110, d'après l'Humanité. Bien trop souvent, pourtant, elle abuse de ses pouvoirs. De l'homicide de George Floyd aux États-Unis aux exécutions extrajudiciaires d'afro-brésiliens dans les favelas du Brésil, en passant par la répression de manifestations au Bangladesh et à New York et à Hong Kong, le recours illégal à la force de la part de la police a eu des effets dévastateurs. Chaque jour, 3 affaires de violences policières sont transmises à la justice, d'après l'Humanité. Il arrive que la police tue ou blesse grièvement des personnes lorsqu'elle procède à des arrestations. Dans d'innombrables autres cas, des responsables de l'application des lois sont prompts à recourir à une force illégale, une surveillance excessive et des arrestations et détentions arbitraires pour réprimer des manifestations pacifiques. Ces actes sont parfois motivés par le racisme et d'autres formes de discrimination. L'utilisation inconsidérée d'armes de maintien de l'ordre à létalité réduite, comme le gaz lacrymogène ou les balles en caoutchouc, les matraques et les grenades incapacitantes, peuvent entraîner des blessures irrémédiables et des traumatismes durables. Le recours illégal à la force par la police peut également, dans le pire des cas, donner lieu à des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements, voire priver des personnes de leur droit à la vie. Les violences policières sont des violations de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, parfois du droit à la vie, du droit à ne pas être discriminé et du droit à la liberté d'expression, de manifester quand elles répriment des manifestations évidemment. Les réformes structurelles sont nécessaires pour mettre fin aux violences policières. Et maintenant, on passe au sommaire. Au sommaire de cette émission, nous commencerons avec une interview de Chéri. Ensuite, nous aurons la chronique actu de Lumia. Ensuite, le Flash Info nous sera présenté par Louise. Le Zoom, ce sera Cyril Hollande par ISC. Nous aurons la chronique libre de Rachel. Et voilà, et on enchaîne tout de suite avec le PAD de Chéri.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Chéri est une artiste franco-espagnole qui propose une pop alternative audacieuse, flirtant avec la techno et l'électro dans l'univers de Charlie, XLS, Clara Kimena ou Carla.
Soledad, que no cura ni el perdón, y me duele el corazón. Oh, ay, que soledad, qué pena tan fuerte. Ser criatura gritando, una criatura que se muere de soledad, soledad.
Cantar para mí significa libertad. En tiempos de guerra, el arte es libertad. Libertad es arte. La música y la voz.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons dans Écoute ta fac dans le 88.3 FM, comme toujours, une artiste franco-espagnole qui incarne la renaissance et la liberté. Chéri. et il compose une musique qui exorcise les cœurs brisés et célèbre les créatures. Bonjour chérie.
Bonjour.
Bienvenue dans Radio Campus Orléans et aujourd'hui on va un peu parler de ton parcours, ton volume 1 aussi, Creaturas. Et oui. Bon, toi tu as commencé à chanter à 9 ans et vécu oui. cette expérience magique avec Émilie Jolie aussi.
Oui.
Et puis l'infection des cordes vocales et, t'a fait entendre que tu ne chanterais plus jamais. Oui. J'aimerais savoir comment as-tu vécu ce passage de l'enfant prodige à cette sentence médicale et qu'est-ce qui t'a donné la force de te battre pour retrouver ta voix ?
Évidemment, ça a été très compliqué à vivre. Moi, j'avais une carrière de prévue dans ma tête pour ça. C'est arrivé quand j'avais 17 ans. Donc, moi, j'avais prévu de monter à Paris et de continuer à faire ce métier. Et puis, la sentence est tombée et j'aimais ce que je faisais sur scène, j'aimais être sur scène. Donc, je suis partie quand même à Paris faire du théâtre dans lequel j'ai travaillé pendant un petit moment. Mmh. Puis ensuite, un jour, j'étais à un concert et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Et du coup, j'ai poursuivi autant que possible. Et une phoniatre m'a dit que c'était possible. Donc, j'ai recommencé la musique.
Tu décris ce moment en Andalousie où tu as imaginé arracher ton cœur et l'enterrer dans les montagnes, c'est ça ? Ce geste symbolique marque la naissance de toi. Et peux-tu nous raconter ce que tu as ressenti ce jour-là et comment l'écriture t'a sauvé ?
L'art, ça sauve toujours, je pense. Après, voilà, l'Andalousie, c'est un lieu dans lequel j'ai grandi, dans lequel je retrouve ma famille, c'est mes racines. Et forcément, c'était un moment un peu de guérison que j'ai expié et aussi, mis par écrit, quoi.
Toi, t'es arrivé en France quand ?
Alors, j'ai vécu toute ma vie entre la France et l'Espagne.
D'accord. Et parlons de ton volume 1, Creaturas.
Oui, ouais.
Qui est décrit comme une œuvre fleuve en plusieurs volumes qui racontent ta transition. Pourquoi ouais. il est important pour toi de documenter musicalement chaque étape de ce parcours ?
C'est pas que c'est important ou pas important, c'est juste que ça se passe comme ça forcément, vu que ma vie elle est faite de changements et de bousculements au même moment où je suis en train de créer. Forcément tout se retrouve dans mon art et dans mes œuvres et je pense que Creaturas c'est un espace dans lequel j'ai envie de me sentir libre un peu tout au long de ma carrière.
Mira, soy vestida de humildad. Mira, mis lágrimas son de sangre.
envisages plusieurs volumes ?
Oui, tout à fait. J'envisage de mener ce projet tant que je le peux et tant que je le veux.
Dans Inferno, tu deviens reine des enfers et tu embrasses celles et ceux qui t'ont blessé. C'est un morceau, je trouve, de pure révolte.
Oui.
Qu'est-ce que ça fait de transformer la douleur en rage créatrice comme ça ?
Ça guérit beaucoup aussi, hein. Ça fait du bien. C'est important d'expier, c'est important de sortir aussi ce qu'on ressent. Et ça, j'aime bien le faire toujours avec poésie aussi parce que c'est mon mode de communication. Donc Inferno, c'est vraiment une chanson qui parle de ça pour le coup.
Chérie Radio, d'ailleurs, qui a un concept génial. Pirater les fréquences pour créer ton propre espace sonore, c'est une métaphore forte de la place qu'on ne te donne pas et que tu prends de force.
Ouais.
Tu peux nous en dire plus sur ce morceau et ce qu'il représente pour toi ?
Ouais, l'industrie de la musique en France, elle est difficile et il faut se faire sa place et parfois contre l'avis de plusieurs personnes, disons. Et moi, j'en ai beaucoup souffert et voilà, c'est une chanson, comme tu l'as bien dit, qui me permet moi de prendre cette place qu'on ne m'offre pas forcément. Ladies and gentlemen.
Que l'industrie musicale en France elle est différente à celle de l'Espagne ?
Oui, définitivement, pour avoir touché aux deux et pour travailler un peu avec l'Espagne aujourd'hui et de plus en plus, il y a quelque chose de porté plus sur l'artistique en Espagne qu'en France aujourd'hui.
Bon, tu dis dans une chanson, le monde dit des personnes cuir qu'elles sont folles, nous fait sentir oui. comme des bêtes de foire, et bien voici venir les créatures. En te réappropriant ce terme de créature, quel message tu veux faire passer aux personnes trans et queer qui t'écoutent?
C'est un mode de communication aussi qu'utilise beaucoup ma communauté, en tout cas, de récupérer les mots et les choses pour lesquelles on nous juge et les mots avec lesquels on nous juge et d'en faire des forces. Et pour moi, dire à toutes ces personnes qu'elles sont des créatures, c'est un peu leur dire de own it et d'utiliser ça un peu comme justement une arme.
Oui. Ok. Et bon, dans ta musique, tu mélanges pop alternative, techno, flamenco aussi. Et comme on a dit tout à l'heure, tes racines andalouses semblent essentielles pour toi. Comment ton héritage familial espagnol il nourrit ta création, surtout quand tu parles de ton grand-père qui rêvait de chanter mais qui a dû fuir l'Espagne franquiste.
Mm-hmm. Comment dire, c'est très empreint de justement cette histoire de ma famille, parce que pour moi l'art ça m'a été soufflé au berceau par justement mon papy qui a toujours rêvé d'être chanteur, qui a dû abandonner cette carrière là. Moi aujourd'hui aussi, je porte aussi cette importance à l'heure où le monde devient un peu bizarre et où il semblerait que le fascisme revienne, de protéger ma place aussi et de protéger mon art et de protéger mes droits.
Bon, comme tu as dit, le fascisme, en ce moment, je pense que c'est très préoccupant. En Espagne, il revient... On voit une jeunesse qui se radicalise de plus en plus. C'est un problème très préoccupant, je trouve. Tu penses pareil?
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que mon EP est aussi politique.
Tu t'entoures d'artistes incroyables, je trouve, comme oui. Maria Blaya, Habibich, Chila, dans Mi Corazón, qui a été le son qui m'a le plus intéressé d'ailleurs. Maria devient l'allié qui parle et voit pour toi.
Oui.
Qu'est-ce que ces collaborations t'apportent artistiquement et humainement?
Humainement surtout, c'est des rencontres magnifiques de gens qui me ressemblent et qui font le même travail que moi, qui rencontrent les mêmes aussi problématiques que moi. Et artistiquement, pour moi, c'est toujours impressionnant de voir des artistes travailler, de découvrir qu'en fait, personne n'a vraiment de méthode et tout le monde travaille avec son cœur. Et c'est toujours émouvant et touchant de voir des gens travailler comme ça.
Como respuesta al dolor, con corazón frágil, falta por una vida sincera. Quieren lo que tengo yo, pero no están en la foto. Dime si como ya hay dos, hay dos, hay dos. Quiero ver a ver, quiero ver a ver, quiero ver a ver. Nunca vas a cambiar. Me asusta que no puedas más y no te conozco, pero solo al mirarte sé que guardas dentro un tesoro. Mi corazón, mi corazón, nunca vas a cambiar. Quieren lo que tengo.
Grâce à ça aussi, ta carrière, elle décolle vraiment.
Oui.
Parce que entre les Tétu Awards, Vevo, Nylon, le Seagate Festival, comment tu vis cette reconnaissance alors que tu entames simultanément ta transition ?
Ça fait du bien. Ça me porte aussi beaucoup, forcément. C'est cool aussi de se rendre compte et de prendre compte des choses positives qui m'arrivent depuis le début de tout ça.
Tu penses que cela t'aide ou est-ce que ça ajoute une pression supplémentaire ?
Quoi donc ?
Ta transition ?
Les deux. Je pense qu'il y a des deux, forcément. Mais c'est pas facile non plus, hein, forcément, de porter cette transition.
Bon, revenons à l'enfance solitaire et silencieuse que tu as vécue. Si tu devais envoyer un message aux enfants solitaires et silencieux comme tu l'étais, qui cherchent leurs propres moyens de communication aussi et de survie, que tu leur dirais ?
De s'entourer, de trouver leur famille de cœur, de trouver du soutien partout où il peut exister, et surtout que faut se souvenir que c'est toujours un chemin de bonheur, même s'il est vraiment en train de difficultés. De se choisir, c'est important, et c'est important aussi pour pouvoir aimer les autres, de s'aimer.
Et merci beaucoup, chérie, d'avoir accepté de nous rejoindre sur Radio Campus Orléans, sur le 88.3 FM, comme toujours. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.
Merci beaucoup, plaisir partagé. Tengo miedo de la noche, porque viene a ese momento. Toda mi pena, por eso bailo con mi alma, por eso bailo con mi calma, y así me siento vivo.
Quand je danse avec toi, je pense à rien d'autre, mais je t'aime comme les autres, ce n'est pas de ma faute. Quand je pense à lui, je le veux dans mon lit. Son rêve toutes les nuits comme d'une mélodie.
Et quand je la vois, elle, je me dis qu'elle est belle. Qu'elle pourrait être seule pour qui je chancelle.
Quand je la vois, elle, je me dis qu'elle est belle. Qu'elle pourrait être seule pour qui je chancelle.
I mean, look at the star.
I'm a fucking star.
Oh my god, what's her rising sign? I would never date a Libra.
Have you seen my face? I'm like so gorgeous.
Quand je danse avec toi, je pense à rien d'autre. Mais je t'aime comme les autres, ce n'est pas de ma faute. Quand je pense à lui, je le veux dans mon lit. Son rêve toutes les nuits comme d'une mélodie. Satan nous vient, la nuit avec des gens de danse. Ici, Satan nous vient. J'y vois comme un signe qu'on est l'équilibre d'un monde qui vacille. Et quand je te regarde, je ressens ta peur. Tout ça n'est qu'un leurre, écoute-moi ton cœur.
Regarde-toi, t'es la star du club. Tu ne vois pas le regard sur toi.
Satan nous vient, la nuit avec des gens de danse. Ici, Satan nous vient, la nuit, oui. Satan nous vient, la nuit avec des gens de danse. Show you.
Where's my drink? It's insane.
I mean, look at this.
You're so cute. What's her son?
Have you seen my face?
Nobody's free until we're all free.
Queen.
We've never been free. We've always been here, but we've never been free. Car votre liberté n'est pas la nôtre. Votre liberté n'est pas collective. Elle est queerphobe, individualiste, capitaliste, raciste, coloniale et injuste. Or, il n'y a pas de paix sans justice. Et votre idée de paix est la quintessence du privilège. Vous pensez nous faire peur, mais en réalité, c'est vous qui avez peur de nous. Et vous faites bien.
Et tu veux pas avoir peur de nous, on va rester là tout près de vous. Et tu veux pas avoir peur de nous, on va rester là tout près de vous. Et tu veux pas avoir peur de nous, on va rester là tout près de vous. Et tu veux pas avoir peur de nous, on va rester là tout près de vous.
C'était Perfect de Smashing Pumping. C'était Perfect de Smashing Pumping sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et je suis avec Ludmila qui va nous parler du retour de la mode de 2016 et des années 2010, tout un programme.
Alors, vous avez peut-être vu cette tendance récemment sur vos écrans. Depuis quelques mois, une phrase circule sur les réseaux. 2026 is the new 2016. Oui, vous avez bien entendu, le retour des modes de nos jeunes années sur le devant de la scène. Entre selfies aux grimaces, leggings galaxy, jeans skinny et larges lunettes de soleil, les internautes redécouvrent avec amusement, ou parfois avec gêne, les codes visuels des années 2010. Cette nostalgie se retrouve dans la musique et la culture populaire, les sonorités électro et R&B refont surface, tandis que certaines figures de l'époque redeviennent incontournables, comme les artistes Charlie XCX, Lana Del Rey ou Lorde, qui connaissent un regain d'attention. Les influenceurs mode, eux aussi, surfent sur la vague avec des outfits qui respirent 2016. Je pense notamment à la créatrice de contenu Loeva qui a récemment lancé la tendance du Cunty Cunta, une esthétique absurde et assumée inspirée de l'internet de l'époque. Faite de gimmicks et de looks sans filtre, nous replongeons 10 ans en arrière entre rose à lèvres pétant et robe fluorescente. S'il est difficile pour certains d'accepter que 2016 était il y a 10 ans déjà, les plus jeunes générations et de nombreux internautes semblent s'amuser, postant d'anciennes photos retrouvées dans leur vieux téléphone. Mais le retour de cette mode n'est pas seulement une blague générationnelle. Il s'inscrit aussi dans un mécanisme sociologique. Au début du XXe siècle, le sociologue allemand Georg Simmel explique que la mode repose sur une tension entre imitation et distinction. Imiter une tendance permet d'appartenir à un groupe, tandis que se différencier affirme l'individualité. Une tendance apparaît donc, se diffuse, puis disparaît lorsqu'elle devient trop commune. C'est ce qui crée le cycle de la mode. Ce mécanisme est aussi générationnel. Chaque génération adopte les codes de son époque pour se différencier de la précédente. Puis, avec le temps, ces codes perdent leur charge sociale et deviennent disponibles, menant les générations plus récentes à se réapproprier les accoutrements des plus anciennes. Mais habituellement, ces retours nostalgiques concernent des périodes plus lointaines, les années 80 ou 90, comme on a pu le voir ces dernières années. Ici, la distance temporelle est extrêmement courte. Le cycle semble s'accélérer. Alors comment 10 ans seulement suffisent aujourd'hui pour transformer une époque récente en objet de nostalgie ? Des sociologues contemporains comme Frédéric Godard expliquent cette accélération par la mondialisation et la vitesse des médias, notamment des réseaux sociaux. Les tendances émergent dans certains milieux créatifs puis se diffusent très rapidement via les marques et les plateformes. Résultat, elles sont adoptées, imitées puis abandonnées beaucoup plus vite, car les publics sont en permanence exposés à de nouvelles influences. On compresse le temps de la mode, les références au passé peuvent donc revenir plus vite. Une autre explication possible tient au rôle psychologique de la nostalgie. Les recherches du psychologue Constantine Sedikides montrent que les individus se tournent davantage vers des souvenirs familiers lorsqu'ils traversent des périodes d'incertitude ou de stress. La nostalgie est comme un mécanisme de régulation émotionnelle permettant de retrouver un sentiment de stabilité. Dans un contexte marqué par des crises économiques, une instabilité politique, de multiples guerres et de l'anxiété climatique, en gros la totale, se replonger dans une période perçue comme plus simple devient rassurant. C'est une mémoire collective accessible et familière. Ainsi, si la mode est cyclique, l'époque actuelle raccourcit ses cycles. Plus le présent paraît instable, plus le passé récent devient un refuge culturel. Alors peut-être que le fait que tous les films et séries iconiques des années 2010 ont droit à des reboots ou que nos jeans skinny oubliés dans notre armoire connaissent un revival n'est pas un manque d'imagination. C'est peut-être simplement le signe qu'on recycle plus vite qu'on ne vit. Le signe d'une époque qui accélère au point de se rattraper elle-même jusqu'à faire de son passé le plus proche un nouveau terrain de réconfort.
Eh bien, merci Ludmila pour cette analyse de la mode rétro. Et maintenant, on écoute, Cestia Freestyle de Lewis Hoffman et Alessia Tequiero.
La salle envolvía mi cuerpo. Solo en la ciudad.
flores me parecen de verdad. Me han salido mil escamas, no me las puedo quitar. Tendré que quedarme en tu cama para poder respirar. Ha llamado la marina, se empiezan a preocupar. Han pedido mi rescate y no se lo pienso dar. Solo nado si es contigo, tomo sol en la ciudad. No lo entienden los vecinos, te espero en la orilla.
C'était Siesta Freestyle de Lewis Hoffman et Alicia Tequiero.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir à tous. Code 9 ce lundi 30 mars. Un attentat déjoué dans Paris dans la nuit de vendredi à samedi. Devant les locaux de la Bank of America au 51 rue de la Boétie dans le 8e arrondissement. Un individu a été interpellé alors qu'il tentait de mettre feu à son système explosif composé d'un bidon transparent de 5 litres contenant un liquide encore indéterminé et d'une charge composée d'un pétard d'environ 650 grammes de poudre explosive. Le parquet antiterroriste s'est saisi immédiatement de l'affaire et le suspect, toujours en garde à vue aujourd'hui, aurait été contacté par Snapchat et rémunéré 600 euros pour effectuer cette action. Cet acte démontre la vigilance dont les forces de sécurité doivent faire preuve. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a demandé leur mise en vigilance, les autorités craignant des répercussions possibles suite aux frappes israélo-américaines sur l'Iran fin février. Toujours en France, c'est une autre enquête qui s'ouvre, cette fois pour le chanteur Gims, mis en examen ce vendredi 27 mars pour blanchiment aggravé et blanchiment en bande organisée. Selon le média Africa Intelligence, qui a révélé cette garde à vue, le chanteur est soupçonné de faire partie d'un vaste réseau de blanchiment international, notamment suite à sa promotion d'un vaste projet immobilier à Marrakech. Le chanteur a été remis en liberté suite à sa mise en examen et placé sous contrôle judiciaire, a fait savoir le parquet national anticriminalité organisée. Maintenant, nous partons aux États-Unis. Souvenez-vous, en juillet 2025, le président Donald Trump avait annoncé la restructuration de l'aile Est de la Maison-Blanche à Washington. Et les travaux de démolition de l'aile avaient démarré dès le mois d'octobre. Le président a déclaré à la presse hier, depuis l'avion le ramenant de son week-end en Floride, que la salle de bal fait en réalité office d'abri pour tout ce qui est construit en dessous par des militaires. Cette annonce ranime les débats autour de ce projet ambitieux, dont le budget prévisionnel, financé par des dons privés, est passé de 200 millions à 400 millions de dollars. Enfin, côté pop culture, c'est le groupe britannique Muse qui a annoncé ce vendredi une tournée nord-américaine cet été pour promouvoir leur 10e album The Wow Signal, prévu ce 26 juin. Une bonne nouvelle pour les fans qui espèrent une tournée européenne 3 ans après leur dernière tournée mondiale.
Eh bien, merci Louise pour ce Flash Info et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir dans le Zoom, nous recevons Cyril Jollard, spécialiste des musiques expérimentales et conseiller à la programmation du festival Explore. C'est la première édition d'Explore, la biennale des musiques expérimentales qui aura lieu du 10 au 13 avril à la Philharmonique de Paris. Et donc Isk est aux commandes du Zoom. Bonsoir Isk, c'est à toi.
Bonsoir Cyril Jollard, bienvenue. Bonsoir. Et tout d'abord, en quelques mots, comment est-ce que vous pouvez présenter ces festivals pour les auditeurs et auditrices qui les découvrent?
Alors l'idée c'était de présenter un événement qui explore les pratiques musicales en marge, les pratiques musicales qu'on qualifie d'expérimentales et qu'on pourrait résumer en disant que c'est des musiciens qui essayent des choses, qui tentent des aventures nouvelles, qui essayent d'aller sur des terrains qu'on n'a pas encore défrichés musicalement et qui s'éloignent un peu de l'industrie ou qui se retrouvent à des points un peu de jonction comme ça entre différentes esthétiques musicales en y apportant une touche très personnelle.
Alors, à propos de cela, vous qui êtes une spécialiste, comment définirez-vous aujourd'hui les musiques expérimentales ?
Justement, l'idée, ça serait de moins les définir possible. Ce qui compte, c'est le moment de l'écoute. En fait, c'est aller vers des musiques qui sont pas formatées pour tenir en 3 minutes ou pour correspondre aux critères de l'industrie pour que ça passe à la radio tous les jours ou à la télé tous les jours. Mais c'est on privilégie l'expérience, en fait, l'expérimentation.
Alors du coup, si l'expérimentation c'est un principe, et si les technologies comme IA sont des outils souvent utilisés pour la création de ce type de musique?
Ça peut être l'intelligence artificielle peut être utilisée dans la création musicale expérimentale, puisque par principe, c'est tous les secteurs de recherche et les nouvelles technologies vont être utilisés. Mais c'est pas ce qui la caractérise le plus.
Ok, et en mouvant vers le festival, comme nous l'avons dit, vous êtes conseiller de la programmation du festival. Quels critères ont guidé vos choix de programmation ?
Alors oui, c'était une programmation collective. Les critères qui ont guidé la programmation, ça a été de vraiment réfléchir à la manière dont on posait la programmation, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon moment et le bon endroit pour tel artiste, est-ce que ça correspond à une étape dans sa carrière importante de venir jouer à la Philharmonie? Est-ce que ça va lui être utile? Et est-ce que c'est le bon moment de le montrer à un public en le faisant sortir de réseaux un peu plus underground?
Très bien. Et je voulais savoir, est-ce que vous privilégiez des artistes déjà connus ou au contraire des formes émergentes?
On a privilégié les formes émergentes et en même temps, on a eu envie de présenter des artistes mondialement connus aussi pour justement que les artistes émergents soient entourés de figures un peu tutélaires et de gens qui pouvaient les représenter à une échelle plus grande. L'idée, c'était de faire se rencontrer des artistes émergents et des figures majeures.
D'accord. Et je voulais savoir combien de temps et ça dure le festival en général ?
Le festival dure 4 jours et c'est des concerts qui vont à peu près de 18h jusqu'à tard dans la nuit.
Ok, et par rapport au public, et à qui s'adresse prioritairement le festival Explore? Il y a une focalisation sur un public particulier?
Non, là l'idée c'est d'aller, on s'adresse aux gens curieux, j'ai envie de dire, mais ça peut être toutes les catégories d'âge, toutes les catégories sociales, quelle que soit votre culture initiale, c'est pousser la porte d'un univers que vous ne connaissez pas.
Et dans ce cas, je m'en demandais si, vous savez, il y a une catégorie spéciale dans ce festival, genre, et quand vous allez dans un festival, il y a des personnes de certains âges qui vont plus, ou de certains types sociaux.
Non, il n'y a pas de qualification spécialement de ce genre-là. C'est pas du tout. C'est vraiment des événements musicaux qui peuvent rassembler des gens très très différents.
Ok, parfait. Et est-ce que vous proposez des manières de rendre ces propositions accessibles à un public non spécialiste? Comment on peut introduire ces gens à ceux qui les découvrent pour la première fois?
Alors là, ça c'est le travail de toutes les équipes d'action culturelle de la Philharmonie qui font un travail remarquable pour toute l'année aller voir des groupes de personnes, que ça soit des étudiants, des élèves du milieu scolaire, mais aussi des personnes qui sont en situation de handicap ou qui peuvent pas se déplacer. Du coup, l'idée c'est de leur amener la musique jusqu'à eux. En fait, il y a des spécialisés à la Philharmonie pour faire se croiser des publics qui viennent d'horizons très différents.
Donc si une personne qui est en train d'écouter pour la première fois, la meilleure option, c'est d'aller au festival et d'écouter des chansons pour eux-mêmes.
Voilà, je pense que c'est la meilleure solution.
Ok. Et on peut dire que l'arrivée de ces musiques à la Philharmonie marque une forme d'institutionnalisation expérimentale quand même. Et ça change quelque chose dans le paysage musical?
Alors, c'est une vraie forme d'institutionnalisation, mais ce n'était pas l'objectif. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la manière... Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'observer le fait que l'institution ait le courage d'aller chercher ces musiques-là et de les accueillir. Et c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. C'est des musiques qu'ont besoin de personnes. Elles existent, elles se pratiquent tous les jours. Il y a des gens qui mènent des expérimentations au quotidien. Là, ce qui est intéressant, c'est le courage de la Philharmonie d'aller sur un terrain un peu audacieux et un peu risqué. Donc, c'est vachement... moi, je trouve ça vraiment très encourageant pour la suite.
Ok, et pour revenir sur la programmation, vous pouvez nous parler d'un moment ou un artiste à ne pas manquer selon vous?
Je vous parlerai de Bégayer et l'économate Redaïef, parce que ça, c'est une rencontre de musiciens qui ont participé à des ateliers de pratique musicale expérimentale en Tunisie, et d'un musicien français qui se rencontre, et ça aura lieu à la Fondation Filminco. Et ça va être vraiment un moment étonnant, parce que il y a aussi de la performance visuelle, ça réunit vraiment tout ce qu'on aime dans la musique expérimentale, et ça montre qu'elle peut être aussi issue des pratiques de musique traditionnelles comme des pratiques un peu plus extrêmes.
Et cette performance, combien dure ?
Ça va durer une heure.
Ah, okay. Très bien. Et quelle place occupent les formats hybrides comme les installations, les performances, les numériques ?
C'est pas une place principale. On a vraiment fait une programmation qui était très musicale, et quand des artistes avaient envie d'explorer des terrains plus visuels, bien sûr, on était enthousiastes, mais c'est pas ça qui a guidé. On était vraiment sur la pratique musicale.
Ok. Et comme une autre question, c'est est-ce qu'il y a une œuvre qui vous profondément marque dans votre parcours?
Oui, alors là, comme ça, je ne sais pas ce que je répondrais, mais je dirais que c'est peut-être la musique de Steve Reich.
Ok, parfait. Merci beaucoup pour cette interview.
Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir.
Eh bien, merci Cyril Jolard, merci Isk, et tout de suite, on écoute L'Idole des Cônes de Sexy Sushi. C'était L'Idole des Cônes de Sexy Sushi.
La matinale de 19h. Radio Campus Paris.
Et je suis avec Rachel qui va nous parler de ressusciter les morts. Est-ce que c'est bien pertinent pour peut-être atteindre l'éternité ?
Bonsoir Fabien, bonsoir les auditeuristes. Aujourd'hui, j'aimerais parler éternité et immortalité. Alors, sans tomber dans un débat philosophique de que serait la vie si nous n'étions pas mortels, blablabla. Non, ce soir, la question qui me taraude, c'est plutôt, est-il bien raisonnable de ne pas laisser partir nos défunteux ? Val Kilmer, décédé il y a un an, sera très prochainement en vedette du prochain film du réalisateur américain Coert Vorhees. Donc, l'acteur américain ne fera pas partie de la promo du film, mais sachez qu'il n'a même pas du tout fait partie du casting, à l'époque déjà trop malade pour tourner. Le réalisateur n'avait pas souhaité faire une croix sur sa vedette, ni sur son personnage, et retourner avec un autre acteur lui aurait coûté trop cher. Alors il a préféré, je cite, « ressusciter l'acteur grâce à la technologie ». Rien que ça. La production a recréé son image à partir de photos, après avoir obtenu l'accord des ayants droit, parce que selon elle, Val Kilmer aurait adoré les nouvelles technologies. Donc il aurait accepté. Alors c'est pas la première fois qu'on sert de l'intelligence artificielle dans le cinéma pour créer des effets spéciaux, des personnages, pour remplacer des doubleuses et traduire des actrices dans leur propre voix, ou pour carrément créer des actrices. Mais c'est pas non plus la première fois qu'on ressuscite nos mortes, nos artistes, nos chanteuses, nos actrices à travers des disques ou des films, ou même qu'on ressuscite nos proches grâce aux deadbots, des IA conversationnelles qui nous permettent de chatter encore un peu avec celles et ceux déjà partis. Notamment parce que les traces numériques, elles, peuvent encore parler. Même quand on aurait préféré qu'elle parte avec nous. Et c'est bien là la première limite éthique à vouloir ressusciter artificiellement nos défuntes. Comment respecter notre dignité ? Comment protéger nos données, nos secrets, notre intimité ? Comment les algorithmes pourraient-ils rester fidèles à nos émotions et nos opinions ? En fait, comment demander un consentement quand il n'y a plus vraiment personne pour le donner ? Quand en octobre 2025, Zelda Williams s'est retrouvée submergée contre son gré par un flot de vidéos de feu son père, l'acteur Robin Williams, ressuscité virtuellement par les internautes, elle criait sans se faire entendre en rappelant que c'était pas son père, qu'il n'y avait pas consenti et qu'elle ne voulait pas voir ces images. Parce qu'il faudrait déjà gérer la peine et le deuil et faire en sorte que nous, vivantes, ne devenions pas zinzin et zinzine à nous accrocher, à maintenir l'illusion que nos mortes sont encore avec nous. Jusqu'alors, on avait des photos accrochées sur nos murs ou rangées dans nos portefeuilles, nos souvenirs et les odeurs et les voix qu'on regrette d'avoir perdues. Et petit à petit, on y pense moins, petit à petit, on s'y fait. Parce qu'à quoi bon faire revivre nos morts et nos mortes si on ne peut plus les sentir et les serrer dans nos bras ? À quoi bon discuter avec nos grands-mères si elles ne peuvent pas aller nous faire à manger et nous dire que ça va aller ? À quoi bon dire à nos grands-pères qu'on est en vacances s'ils ne peuvent pas nous inviter chez eux ? Dire à nos oncles et nos tantes qu'on est en direct à Radio Campus s'ils ne peuvent pas nous écouter sur le poste de la cuisine ? Que reste-t-il d'elles si elles ne sont que des messages sur une conversation virtuelle ? Que reste-t-il si elles n'avancent pas avec le monde ? Et j'aurais peur de leur envoyer un message pour leur dire à quoi il ressemble ce monde du futur qui ne cesse de retourner dans le passé. De toute façon, ils ne verront jamais mon message, parce qu'on leur a pas appris à utiliser un smartphone, à remettre la 5G. Mais non, non, c'est pas pareil que la Wi-Fi, pépé, et puis t'as pas besoin de coller ton oreille au combiné, là, t'es en visio, on te voit, allô, allô. Donc est-il bien raisonnable de tous nous ressusciter, alors qu'on a déjà du mal à bien s'occuper de toutes nos vivantes, encore là, et celles à venir, alors qu'on a déjà du mal à répondre à tous nos messages, et qu'on va tous finir par partir ? Et qui s'occupera de nos chatbots post-mortem quand elles seront plus nombreuses que les vivantes ? Et puis comment on fera après notre mort quand on ne sera plus que des IA abandonnées, à attendre que les autres pensent encore à nous et nous envoient plein de messages, alors qu'elles auront déjà fait leur deuil ?
Eh bien, merci Rachel pour cette chronique et cette analyse sur la pertinence de ressusciter les morts. Et la matinale se termine. Merci donc Rachel, c'est la fin de la matinale. Merci. Oui. Donc merci pour le reportage de Chéri de Radio Campus Orléans. Ils nous venaient de Radio Campus Orléans. Merci à eux, ils nous ont sauvé la vie. Merci à Cyril Jollard et Isk au Zoom. Merci à Louise pour le Flash Info. Merci à Ludmilla et Rachel pour leurs chroniques respectives. Merci à Aude et Jeanne pour l'organisation de cette matinale. À la réalisation, c'était de jouer. Restez avec nous tout de suite, ces pièces détachées sur l'actualité des arts vivants. On retrouve la matinale demain à 19h. Passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris 93.9 FM.